Bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud toulousain, et nous allons parler énergie, nous allons parler électricité parce que je suis actuellement dans nos studios de Rieux-Volvestre avec monsieur Éric Farabeau, délégué RTE Sud-Ouest. Monsieur Farabeau, bonjour.
Bonjour.
Pour rappel, RTE, c'est le transporteur de l'électricité sous haute tension aux distributeurs, c'est ça?
Tout à fait. RTE, donc le réseau de transport d'électricité, nous sommes une entreprise de service public et nous transportons l'électricité sur l'ensemble du territoire français, en haute et très haute tension, donc les grosses lignes qu'on voit le long des autoroutes. Et puis à ce titre, nous sommes également en charge d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation à tout instant, et c'est une mission sur laquelle nous reviendrons, puisque c'est ce qui nous permet de voir quels sont les besoins en électricité pour tout de suite, mais aussi pour le futur.
Alors, pour rappel, quelques chiffres très simples. RTE, c'est 10 800 km de lignes électriques.
En Occitanie.
En Occitanie, dont 630 km de lignes souterraines. Alors, les lignes souterraines ne sont pas les lignes qui sont à très haute tension, si?
Alors, désormais, si, on peut faire des lignes souterraines à très haute tension. Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, effectivement, le réseau, il est essentiellement aérien. Et aujourd'hui, le kilométrage de lignes aériennes a tendance plutôt à se réduire un petit peu, puisque lorsque nous renouvelons le réseau, nous pouvons parfois déposer des lignes et construire, à contrario, des lignes en souterrain. Et donc, le kilométrage de lignes souterraines, lui, a plutôt tendance à augmenter.
Les lignes souterraines, c'est plus facile à entretenir, c'est moins facile à entretenir. Bon, il y a des zones où on ne peut pas les faire en montagne, par exemple, c'est très compliqué. Mais en revanche, pourquoi est-ce qu'on les enterre, mis à part l'aspect esthétique?
C'est essentiellement pour l'aspect esthétique, puisque le principal avantage des lignes souterraines, c'est d'être plus facilement accepté par nos concitoyens. Donc c'est la principale raison. Aujourd'hui, techniquement, on arrive à faire des lignes souterraines pour un prix qui n'est pas considérablement plus élevé que les lignes aériennes. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible, vous l'avez dit, en montagne par exemple. Mais c'est essentiellement pour cette raison-là que désormais, lorsque nous créons du nouveau réseau, c'est le plus souvent en souterrain.
RTE en Occitanie encore, c'est presque 900 salariés. Une production qui est très diversifiée par rapport à l'ensemble du territoire national parce qu'on a plusieurs sources, une grosse diversification des sources d'approvisionnement.
Alors tout à fait. Alors la production, ce n'est pas RTE, hein, ce sont les producteurs qui sont nos clients au titre du fait qu'ils utilisent le réseau. Et donc nous avons comme clients d'une part les producteurs qui injectent l'électricité et puis d'autre part les distributeurs et quelques grands sites industriels qui viennent la soutirer.
Excusez-moi, je vous coupe. Votre problématique à vous, c'est de relier tout ça.
Effectivement, nous le relions grâce au réseau, et ce réseau, c'est ce qui permet justement de mutualiser l'ensemble de la production qui, comme vous l'avez dit, est très diversifiée, et la rendre à chaque instant égale à la consommation sur l'ensemble du territoire français. Alors en effet, en Occitanie, les filières de production sont assez diversifiées, il y a une centrale nucléaire, celle de Golfech, et pour le reste, ce sont des énergies renouvelables, pour moitié de l'hydraulique, et le reste se répartit entre éolien et solaire.
Alors, le nucléaire représentait en 2021 40%.
En 2022, effectivement, le nucléaire a couvert 40% de la production totale en Occitanie. C'est un petit peu moins que l'année précédente, parce que la centrale de Golfech a été arrêtée sur la fin de l'année 2022, notamment en lien avec la question de la corrosion sous contrainte qui avait conduit une partie du parc nucléaire à être arrêtée sur la fin de l'année 2022.
La deuxième source d'approvisionnement, et notre région est gâtée pour ça, c'est l'hydraulique.
Tout à fait. L'Occitanie est la deuxième région de France pour la production hydraulique, hein, après les Alpes. Et cette production hydraulique, eh bien, un peu comme le nucléaire, elle a été moindre en 2022 qu'en 2021.
30% à peu près.
Oui, alors 30% de la production, elle a représenté 30% de la production, mais elle a un peu baissé, elle aussi, par rapport à l'année précédente. Parce que l'année 2022 a été une année particulièrement sèche, en particulier en début d'année, même si ça s'est un peu amélioré sur la fin. À chaque fois qu'il pleut, nous, électriciens, sommes heureux. Nous ne sommes pas les seuls, puisque, on le sait, les problématiques de sécheresse vont croissant. Donc là, c'est pareil pour 2023. On a eu un début d'année très sec. Le fait qu'il pleuve est plutôt favorable pour disposer d'énergie électrique d'origine hydraulique.
La troisième source d'approvisionnement que vous transportez, c'est le solaire.
Oui, le solaire qui s'est fortement développé en Occitanie et plus généralement dans le sud de la France et qui continue à croître, hein, puisque en 2022, la quantité de panneaux solaires installés a augmenté de près de 18%. Et donc, c'est vraiment l'énergie qui est le plus en développement actuellement. Et par ailleurs, 2022 a été, là, pour le coup, une année très ensoleillée. Donc, la production de solaire, là, a vraiment augmenté, sans toutefois compenser les baisses du nucléaire et de l'hydraulique, bien sûr.
Ce sont des grosses installations, ce sont des petites installations. Quelle est la taille moyenne d'une installation ?
Alors, l'essentiel des installations se raccorde sur les réseaux de distribution. Hein. C'est des installations de relativement petite taille. Mais c'est vrai que les ambitions sont telles en matière de nécessité de développer les énergies renouvelables qu'il faudra sans doute aussi recourir à des parcs de plus grande taille, même si c'est un peu plus long et nécessite un peu plus de concertation pour pouvoir le réaliser.
Oui, parce que, je le répète encore une fois, votre problématique à vous, c'est de raccorder les sites de production au réseau global pour pouvoir le gérer. Et donc, si les gens même ont envie de faire des petites installations chez eux, il faut quand même qu'il y ait des postes d'accès sur vos transformateurs.
Si c'est chez eux, c'est avec le distributeur, essentiellement Enedis, que le raccordement se réalise. Mais lorsque ces panneaux solaires deviennent nombreux, eh bien, la production globale sur une zone peut devenir supérieure à la consommation de cette zone, hein, surtout dans des villages ou lorsque ce sont des agriculteurs qui développent des panneaux solaires sur les hangars, par exemple. Et à ce moment-là, il faut que cette énergie puisse être évacuée sur le réseau. Et donc, cela nous amène à devoir développer des postes qui permettent de collecter cette énergie et la connecter au réseau global pour être acheminée vers les zones de consommation.
La quatrième source, c'est l'éolien. Avec deux types d'éolien, il y a le terrestre, mais surtout le développement de l'éolien marin.
Alors, en effet, l'éolien terrestre a déjà été largement développé. On constate une forme de ralentissement du développement de l'éolien terrestre qui se heurte finalement à des enjeux d'acceptabilité. Et donc, en effet, sa dynamique est moindre que celle du solaire, en tout cas en ce moment. En outre, en 2022, ça a été une année, on l'a dit, peu pluvieuse, très ensoleillée, et le corollaire, c'est peu venté. Donc la production éolienne en 2022 a même été un peu plus faible qu'elle ne l'a été en 2021. Donc ça, c'est pour l'éolien terrestre. Et en effet, désormais, les perspectives se tournent vers l'éolien en mer. En France, on a raccordé un premier parc sur la façade atlantique l'an dernier. Et pour ce qui concerne la Méditerranée, on a en cours deux expérimentations de petite taille, mais qui devraient déboucher sur des développements d'éoliens, alors on appelle éoliens flottants, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas ancrés sur le fond de la mer, mais flottants. Donc c'est une technologie qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre et qui en est à ses débuts, mais qui devrait apporter aussi de la puissance éolienne venue de la mer sur la côte méditerranéenne dans les années à venir.
L'éolien qui représente à peu près 10%. Et après, il y a les productions d'énergie un peu plus alternatives, on va dire, que sont par exemple thermiques renouvelables avec les déchets. En particulier la génération de gaz, j'imagine, pour faire tourner des turbines.
Alors en effet, on peut aussi produire de l'électricité à partir de la biomasse de manière générale, hein, que ce soit avec de la méthanisation ou pas. C'est un secteur qui est un peu moins dynamique en matière de développement que le solaire, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la biomasse a de multiples usages possibles. On peut faire directement de la chaleur avec, ou on peut faire directement du gaz. Et donc, l'électricité à partir de biomasse doit être arbitrée. En fait, il faut faire des choix entre faire de l'électricité avec cela ou faire d'autres formes, soit du gaz vert, soit de produire de la chaleur.
Toutes ces énergies, que ce soit le thermique, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit l'hydraulique, sont des énergies qui sont non constantes, qui sont très dépendantes des conditions soit climatiques ou des conditions locales de production.
Alors en effet, ce sont des énergies qui ont toutes des caractéristiques différentes. Le nucléaire est constant pour autant que les centrales soient disponibles. On a vu quand même que cela pouvait parfois présenter des difficultés, ça a été le cas l'hiver dernier. L'éolien et le solaire, bien sûr, dépendent de la météo. L'hydraulique, alors c'est le stock global qui dépend de la pluviométrie. Par contre, l'hydraulique a l'avantage, vu du réseau électrique, de pouvoir être mis en service instantanément. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de plus d'électricité, on l'obtient dans les minutes qui suivent. Et puis, il reste en France des centrales aussi au gaz, même s'il n'y en a pas en Occitanie, mais qui permettent aussi de moduler. Alors, l'enjeu, c'est de mutualiser tout ça pour, à la fin, avoir à chaque instant le niveau de la consommation, sachant que cette consommation elle-même varie. Et pour cela, ça veut dire mutualiser à la plus grande échelle possible. C'est pour ça que l'équilibre entre l'offre et la demande, il se joue d'abord à l'échelle du territoire français tout entier, mais même à l'échelle du territoire européen. Lorsqu'on manque de production d'énergie en France, on peut faire appel à de la production venant peut-être de mer du Nord, justement, où il y a déjà beaucoup de grands champs éoliens, ou bien du Sud, lorsque le solaire ou d'autres moyens sont disponibles.
C'est pour ça, mettre ensemble tout ce réseau, vous avez créé il y a 2-3 ans un projet qui s'appelle S3RENR, c'est ça ?
Alors, S3RENR est plus centré sur le fait d'accueillir les énergies renouvelables sur chacune des régions françaises. Donc, chaque région française a son schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour justement identifier les nouveaux postes électriques à créer pour collecter cette énergie et la ramener sur le réseau global. Donc, c'est plus là un enjeu de planification à des échelles plus régionales pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Pour ce qui est du grand réseau qui est nécessaire pour mutualiser tout cela, ce sont des projets parfois de plus long terme, hein, mais qui concernent la création de lignes d'interconnexion et à terme aussi les renforcements structurels sur le réseau. Et d'ailleurs, nous allons publier début 2024 là, un schéma décennal de développement du réseau qui donnera une vision plus globale des besoins du réseau dans les années à venir.
On va avoir besoin de plus en plus d'électricité dans les années futures, semble-t-il. Et en fin d'année dernière, on nous a dit que le réseau risquait, j'ai bien risqué, d'être saturé et de ne pas pouvoir répondre à la demande. Alors, il s'est passé quoi ? On en est où ?
Il y a d'une part la situation conjoncturelle rencontrée cet hiver, 2022-2023, et puis d'autre part, les besoins futurs qui sont, pour le plus long terme, les besoins d'électrification future. Alors, ce qu'on a vécu pendant l'hiver 2022-2023 était une situation tout à fait inédite, qui était liée à un contexte de crise énergétique qui s'est fortement accru avec la guerre en Ukraine, avec une raréfaction de l'accès au gaz pour l'ensemble des pays européens. Et puis, deuxièmement, cette fin d'année 2022, on avait un parc nucléaire qui était en partie arrêté pour le problème de corrosion sous contrainte que j'ai déjà mentionné. On sortait aussi d'une crise Covid qui avait un peu perturbé ses activités. Donc ça veut dire peu de gaz en Europe, peu de nucléaire en France, une année hydraulique assez sèche, on l'avait dit aussi, et donc ça nous a amené à l'automne à identifier qu'il y avait un risque pour cet hiver. On manquait potentiellement de pas loin de 10% de production pour satisfaire la consommation. Et c'est ce qui nous a amené à lancer le gouvernement a lancé une campagne de sobriété sur l'énergie en général. Et nous l'avons relayé avec le dispositif EcoWatt pour pouvoir alerter et sensibiliser aux éco-gestes permettant de baisser la consommation, modérer la consommation. Ça a bien fonctionné. Et c'est ça qui a fait que l'hiver s'est finalement bien passé.
Alors, excuse-moi, est-ce que c'est le système mis en place qui a fait que ça a bien tenu ou parce que l'hiver n'a pas été si rigoureux que ça non plus ?
Alors, c'est bien le système mis en place qui fait que ça a tenu. Alors, il y a plusieurs facteurs, hein. Les incertitudes qu'on avait, c'était est-ce que le parc nucléaire pourrait progressivement remonter en puissance d'ici le milieu d'hiver ? Bon, ça a été le cas, selon le scénario d'ailleurs annoncé par EDF. C'était plutôt favorable. Il y a eu un peu plus, certes, de pluie sur la deuxième partie de l'année, donc un peu plus de réserves hydrauliques. Concernant le gaz, les pays européens ont trouvé d'autres modes d'approvisionnement, donc finalement, on a pu compter sur eux pour aussi notre approvisionnement énergétique. Et enfin, effectivement, l'hiver a été relativement doux, bien qu'il y ait eu quand même quelques périodes de froid. Et pourtant, avec tout ça, ça n'aurait pas suffi si nous n'avions pas collectivement baissé la consommation. Cette baisse de consommation a été tout à fait significative puisque sur l'ensemble de l'hiver, entre octobre et mars, enfin, on a calculé que la consommation avait baissé de 9% par rapport à une année similaire dans les mêmes conditions météo. Et ça a apporté finalement cette sécurité puisque je disais tout à l'heure, il nous manquait en gros une dizaine de gigawatts, enfin à peu près 10% de la consommation. Et c'est cette baisse de consommation qui a permis de rétablir l'équilibre.
Vous l'avez soulevé tout à l'heure, l'électricité est un marché privé où les gens s'achètent, et comme un petit peu que le marché de l'énergie de façon générale.
Alors, c'est pas tout à fait un produit comme un autre, parce que c'est un peu plus délicat à gérer que, par exemple, transporter des oranges. Mais effectivement, les principes qui font fonctionner le marché de l'électricité s'inspirent de ce qu'on trouve sur les marchés des matières premières.
Oui, et justement, ça n'est pas un produit comme un autre, parce que le gros problème de l'électricité, c'est que ça n'est pas stockable.
Exactement.
Et on en est où aujourd'hui ? J'imagine que vous êtes fait partie des pionniers de la recherche dans le stockage de l'électricité ?
Alors, bon, nous sommes transporteurs, nous ne sommes pas stockeurs, mais nous nous intéressons de près au développement du stockage, parce qu'en effet, il peut apporter, et cela même peut devenir nécessaire, qu'il apporte au système électrique les moyens de réguler l'équilibre entre la production et la consommation. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, les nouvelles sources d'énergie éolienne ou solaire, ben, on le sait, sont très, très variables. L'hydraulique, ça peut être le cas aussi. Si bien que dans les années à venir, nous allons avoir une part croissante de ce type d'énergie dans le système électrique, il va être nécessaire de mettre en place des moyens de flexibilité pour réguler l'offre et la demande. Et notamment, le stockage en fait partie, aux côtés du réseau, aux côtés du pilotage de la consommation, de la sobriété, etc. Et donc, oui, le stockage, dans les années à venir, a vocation à apporter sa contribution à la gestion du système électrique.
Oui, parce que ça ferait partie des réserves, ce qu'on appellerait stratégiques.
Oui, stratégiques ou en tout cas indispensables pour avoir à disposition l'électricité à tout instant, à chaque seconde, alors que jusqu'à présent, elle se stocke peu. Et donc, si on en a besoin de plus là tout de suite, normalement, il faut démarrer une nouvelle centrale, quoi. Et on a peu aujourd'hui de moyens de stockage, hormis un peu dans les barrages avec des systèmes de pompage. Mais aujourd'hui, c'est encore relativement marginal.
L'électricité, on a l'habitude, on allume le bouton, ça fonctionne. Les besoins, on l'a dit tout à l'heure, vont devenir croissants pour plein de raisons. On nous demande de limiter les énergies fossiles et donc de passer à l'électrique. Comment on va réussir à répondre à cette demande ?
Alors c'est tout l'enjeu, sachant que notre base fondamentale, c'est bien que lorsque dans les années à venir, on appuiera sur le bouton de l'électricité, eh bien ça continue comme aujourd'hui à être disponible à tout instant et dans toute la continuité. Donc notre enjeu, c'est bien d'assurer cette sécurité d'approvisionnement dans les décennies à venir, alors qu'en effet, on va avoir de plus en plus de besoins d'électricité. Vous l'avez dit, mais on peut le résumer ainsi, il va falloir se passer du pétrole et du gaz. Cela va se faire en partie en s'appuyant sur peut-être des biocarburants ou autres, mais aussi en grande partie en transférant ces utilisations-là vers de l'électrification. On va avoir donc besoin de produire plus d'électricité. Et cette électricité en plus, bien entendu, il faut la produire sans qu'elle produise de carbone. Donc ça veut dire soit des énergies renouvelables, soit du nucléaire. Et en l'occurrence, les orientations prises vont dans le sens de faire les deux, avec peut-être une nuance, c'est que les énergies renouvelables, on peut le faire tout de suite. Les nouvelles centrales nucléaires, ce sera pour un peu plus tard.
Ça prend du temps et c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est ça ?
Tout à fait. Donc ce mix énergétique, il évolue. Au vu des besoins d'électrification qui augmentent de l'ordre de... Enfin là, on estime qu'il faut 30-35% d'électricité en plus. En 2021, on a fait une première étude qui voyait cette augmentation à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on est en train de constater que ça va être beaucoup plus tôt que prévu. Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, avec la crise énergétique, il y a un enjeu aussi de souveraineté de production d'énergie en Europe et en France. Il y a un enjeu de relocalisation de l'industrie. Il y a un enjeu de décarbonation. Et pour parvenir à produire cette quantité supplémentaire, il faut aussi qu'on se modère sur les usages que l'on peut modérer. C'est pour ça que aussi ce qu'on a pu observer cet hiver avec cette baisse de consommation, en faisant attention par exemple à l'usage du chauffage, au numérique, à l'éclairage, etc. Eh bien, cette sobriété, elle doit aussi accompagner cette transformation pour que l'on puisse répondre aux besoins de production d'électricité dans les années à venir.
Selon avec votre regard, vous donc qui êtes délégué RTE Sud-Ouest, qui avez une vision globale de ce quart sud-ouest de la France, c'est quoi l'avenir d'RTE ? C'est quoi les projections que vous faites ?
Alors les projections, c'est que dans un premier temps, d'ici à 2030, pour répondre aux besoins croissants d'électricité, il faut développer, accélérer fortement les énergies renouvelables. C'est ça qu'on peut faire rapidement. Et puis, il faut aussi veiller à la disponibilité du parc nucléaire. Les centrales actuelles doivent continuer à produire. Ensuite, de 2030 à 2035, on va pouvoir s'appuyer sur l'arrivée de l'éolien offshore. Donc ça va aller mieux. Et puis, de 2035 à 2050, eh bien, ce seront l'arrivée de nouvelles centrales nucléaires qui vont venir compléter ce mix énergétique. Et pour réussir tout ça, il faut que, en regard, nous soyons tous mobilisés, collectivités, entreprises, citoyens, sur la sobriété énergétique au sens large, pour assurer donc cette atteinte de l'objectif de neutralité carbone et de sécurité d'approvisionnement.
Pour paraphraser ce qu'avait dit une fois quelqu'un de chez EDF, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Ça reste vrai, ça restera vrai pour de longues années encore.
Éric Farabaud, délégué RTE Sud-Ouest, merci beaucoup d'être venu sur Radio Galaxy, nous avoir fait ce bilan 2022 et ses perspectives pour l'avenir. Et bien écoutez, à bientôt peut-être.
Merci, à bientôt.